Chapitre 11 : La fièvre de l'or. C'est dans la matinée du 6 mars que la découverte avait été faite. Quelques personnes, parmi lesquelles Edward Rhodes, ayant projeté une partie de chasse, avait quitté Liberia de bonne heure en voiture et s'était rendu à une vingtaine de kilomètres dans le sud-ouest, sur le revers occidental de la presqu'île Hardy, au pied des montagnes, les Sentry Boxes, qui la terminent. Là s'étendait une forêt profonde non encore exploitée, où se réfugiaient d'ordinaire les fauves de l'île Host, des pumas et des jaguars qu'il convenait de détruire jusqu'au dernier, car nombre de moutons avaient été leurs victimes. Les chasseurs battirent la forêt. Ayant tué deux pumas chemin faisant, ils atteignaient un ruisseau torrentueux qui délimitait la lisière opposée, lorsqu'apparut un jaguar de grande taille. Edward Rhodes, l'estimant à bonne portée, lui envoya un premier coup de fusil qu'il atteignit au flanc gauche, mais l'animal n'avait pas été blessé mortellement. Après un rugissement de colère plutôt que de douleur, il fit un bond dans la direction du torrent, rentra sous bois et disparut. Pas si vite cependant qu'Edward Rhodes n'eut le temps de tirer un second coup. La balle manquant le but alla frapper un angle de roche. La pierre vola en éclats. Peut-être les chasseurs eussent-ils alors quitté la place si un des éclats tombés ne fût tombé au pied d'Edward Rhodes, qui, intrigué par l'aspect particulier de ce fragment de roche, le ramassa et l'examina. C'était un petit morceau de quartz, strié de veines caractéristiques, dans lesquelles il lui fut facile de discerner des parcelles d'or. Edward Rhodes fut très ému de sa découverte. De l'or ! Il y avait de l'or dans le sol de l'île Host ! Rien que cet éclat de roche en témoignait. Y a-t-il lieu d'ailleurs de s'en étonner ? N'a-t-on pas trouvé des filons du précieux métal autour de Punta Arenas, comme à la Terre de Feu, en Patagonie comme en Magellanie? N'est-ce pas une chaîne d'or, cette gigantesque épine dorsale des deux Amériques, qui, sous le nom de montagne rocheuse et de cordillère des Andes, va de l'Alaska au Cap Horn, et dont, en 4 siècles, on a extrait pour 45 milliards de francs? Edward Rhodes avait compris l'importance de sa découverte. Il aurait voulu la tenir secrète, n'en parler qu'à son père, qui eût mis le Cowger au courant. Mais il n'était pas seul à la connaître. Ses compagnons de chasse avaient examiné le morceau de roche et avaient ramassé d'autres éclats qui tous renfermaient de l'or. Il ne fallait donc pas compter sur le secret, et le jour même, en effet, l'île entière savait qu'elle n'avait rien à envier au Klondike, au Transvaal, aux Eldorado. Ce fut la traînée de poudre dont la flamme courut en un instant de Liberia aux autres bourgades. Toutefois, dans cette saison, il ne pouvait être question de tirer un parti quelconque de la découverte. Dans quelques jours, on serait à l'équinoxe d'automne, et ce n'est pas sous le parallèle de l'île Host qu'il est possible d'entreprendre des exploitations de plein air aux approches de l'hiver. La trouvaille d'Edward Rhodes n'eut donc et ne pouvait avoir aucune conséquence immédiate. L'été s'acheva dans des conditions climatériques assez favorables. Cette année, la 10e depuis la formation de la colonie, avait eu le bénéfice d'une récolte exceptionnelle. D'autre part, de nouvelles scieries s'étaient établies à l'intérieur de l'île, les unes mues par la vapeur, les autres employant l'électricité engendrée par les chutes des cours d'eau. Les pêcheries et les fabriques de conserves avaient donné lieu à un trafic considérable, et le chargement des navires, à l'entrée et à la sortie du port, s'était chiffré par 32 775 tonnes. Avec l'hiver, il fallut interrompre les travaux entrepris au Cap Horn pour l'érection du phare et la construction des salles, où devaient être installées les machines motrices et les dynamos. Ces travaux avaient marché jusqu'alors d'une manière très satisfaisante, malgré l'éloignement de l'île Horn, située à environ 75 km de la presqu'île Hardy et l'obligation de transporter le matériel à travers une mer semée de récifs que les tempêtes de l'hiver allaient rendre impraticable. Si la mauvaise saison amena, comme de coutume, nombre de coups de vent et des tourmentes de grande violence, elle ne provoqua pas de froids excessifs, et même en juillet, la température ne dépassa pas 10 degrés sous zéro. Les habitants de Liberia ne redoutaient plus alors le froid ni les intempéries, l'aisance générale ayant permis à toutes les familles de s'installer confortablement. Il n'y avait pas de misère sur l'île Host, et les crimes contre les personnes ou les propriétés n'y avaient jamais troublé l'ordre public. On n'y connaissait que de rares contestations civiles, transigées en général avant même d'arriver au tribunal. Il semblait donc qu'aucun trouble n'eût menacé la colonie sans cette découverte d'un gisement aurifère, dont les conséquences, étant donné l'avidité humaine, pouvaient être extrêmement graves. Le Kaoudjer ne s'y était pas trompé. La nouvelle lui avait fait concevoir les plus sombres pronostics, et la réflexion les assombrit encore. À la première réunion du conseil, il ne cacha pas ses craintes. « Ainsi, dit-il, c'est au moment où notre œuvre est achevée, lorsque nous n'avons plus qu'à recueillir le fruit de nos efforts, que le hasard, un hasard maudit, jette parmi nous ce ferment de trouble et de ruine. » « Notre ami va trop loin, » intervint Harry Rhodes, qui considérait l'événement d'une manière moins pessimiste. « Que la découverte de l'or soit une cause de trouble, c'est possible, mais de ruine. »« Oui, de ruine, » affirma le Kaoudjer avec force. « La découverte de l'or n'a jamais laissé que la ruine après elle. » Cependant, objecta Harry Rhodes, « l'or est une marchandise comme une autre, la plus inutile. » « Du tout, la plus utile, puisqu'elle peut s'échanger contre toutes les autres. »« Qu'importe, » répliqua le Kaoudjer avec chaleur, « si pour l'obtenir il faut tout lui sacrifier. »« Des chercheurs d'or, l'immense majorité périt dans la misère. »« Quant à ceux qui réussissent, la facilité de leur succès détruit à jamais leur jugement. »« Ils prennent goût aux plaisirs aisément obtenus. » Le superflu devient pour eux le nécessaire, et quand ils sont amollis par les jouissances maternelles, ils deviennent incapables du moindre effort. Ils se sont enrichis, peut-être, au sens social du mot. Ils se sont appauvris, selon la signification humaine, la vraie. Ce ne sont plus des hommes. « Je suis de l'avis du Kaoudjer, » dit alors Germain Rivière. « Sans compter que, si on délaisse les champs, on ne remplacera pas les récoltes perdues. C'est peu de chose d'être riche quand on crève de faim. Or, je crains bien que notre population ne résiste pas à cette influence funeste. Qui sait si les cultivateurs ne vont pas abandonner la campagne et les ouvriers leur travail pour courir aux placers ? L'or, l'or, la soif de l'or, répétait le Kaoudjer. Aucun plus terrible fléau ne pouvait s'abattre sur notre pays. Harry Rhodes était ébranlé. « En admettant que vous ayez raison, dit-il, il n'est pas en notre pouvoir de conjurer ce fléau. »« Non, mon cher Rhodes, répondit le Kaoudjer. Il est possible de lutter contre une épidémie, de l'enrayer, mais à cette fièvre de l'or, il n'y a pas de remède. C'est l'agent le plus destructif de toute organisation. » En peut-on douter après ce qui s'est passé dans les districts aurifères de l'Ancien ou du Nouveau Monde, en Australie, en Californie, dans le sud de l'Afrique ? Les travaux utiles ont été abandonnés du jour au lendemain, les colons ont déserté les champs et les villes, les familles se sont dispersées sur les gisements. Quant à l'or extrait avec tant d'avidité, on l'a stupidement dissipé comme tout gain trop facile en abominable folie. Et il n'est rien resté à ces malheureux insensés. » Le Kaoudjer parlait avec une animation qui montrait la force de sa conviction et la vivacité de ses inquiétudes. « Et non seulement il y a le danger du dedans, ajouta-t-il, mais il y a le danger du dehors. Tous ces aventuriers, tous ces déclassés qui envahissent les pays aurifères, qui les troublent, les bouleversent pour arracher de ses entrailles le métal maudit. Il en a cours de tous les points du monde. » C'est une avalanche qui ne laisse que le néant après son passage. « Ah, Pourquoi faut-il que notre île soit menacée de pareils désastres ? « Ne pouvons-nous encore espérer ?» demanda Harry Rhodes, très ému. « Si la nouvelle ne s'ébruite pas, nous serons préservés de cette invasion. » « Non, répondit le Caoutchouc, il est déjà trop tard pour empêcher le mal. » On ne se figure pas avec quelle rapidité le monde entier apprend que des gisements aurifères viennent d'être découverts dans une contrée quelconque, si lointaine soit-elle. On croirait vraiment que cela se transmet par l'air, que les vents apportent cette peste si contagieuse, que les meilleurs et les plus sages en sont atteints et y succombent. Le conseil fut levé sans qu'aucune décision eût été arrêtée. Et en vérité, il n'y avait lieu d'en prendre aucune. Comme le Caoutchouc l'avait dit avec raison, on ne lutte pas contre la fièvre de l'or. Rien, d'ailleurs, n'était perdu encore. Ne pouvait-il se faire, en effet, que le gisement n'eût pas la richesse qu'on lui attribuait de confiance, et que les parcelles d'or fussent disséminées dans un état d'éparpillement tel que toute exploitation fût impossible? Pour être fixé à ce sujet, il fallait attendre la disparition de la neige, qui, pendant l'hiver, recouvrait l'île de son manteau glacé. Au premier souffle du printemps, les craintes du Caoutchouc commencèrent à se réaliser. Dès que le dégel fit son apparition, les colons les plus entreprenants et les plus aventureux se transformèrent en prospecteurs. Ils quittèrent l'Iberia et partirent à la chasse de l'or. Puisqu'il avait été trouvé au Golden Creek, ainsi fut dénommé le petit ruisseau dont la balle malencontreuse d'Edward Rhodes avait effleuré la berge, c'est là que se portèrent les plus impatients. Leur exemple fut suivi, malgré tous les efforts du Caoutchouc et de ses amis, et les départs se multiplièrent rapidement. Dès le 5 novembre, plusieurs centaines d'Australiens, en proie à l'idée fixe de l'or, s'étaient rués vers les gisements et errés vers les montagnes à la recherche d'un filon ou d'une poche riche en pépites. L'exploitation des placers ne comporte pas de grandes difficultés en principe. S'il s'agit d'un filon, il suffit de le suivre, en attaquant la roche avec le pic, puis de concasser les morceaux obtenus pour en extraire les parcelles de métal qu'il renferme. C'est ainsi qu'on procède dans les mines du Transvaal. Toutefois, suivre un filon, c'est bientôt dit. En pratique, cela n'est pas fort aisé. Parfois, les filons se brouillent et disparaissent, et ce n'est pas trop pour les retrouver de la science de techniciens expérimentés. À tout le moins, ils s'enfoncent très profondément dans les entrailles de la terre. Les suivre, cela revient par conséquent à ouvrir une mine, avec toutes les surprises et tous les dangers inhérents à ce genre d'entreprise. D'autre part, le quartz est une roche d'une extrême dureté, et pour le concasser, on ne saurait se passer de machines coûteuses. Il en résulte que l'exploitation d'une mine d'or est interdite aux travailleurs isolés, et que des sociétés puissantes, disposant d'une abondante main-d'œuvre et de capitaux considérables, peuvent seules y trouver profit. Aussi, les chercheurs d'or, les prospecteurs, pour leur donner le nom sous lequel on les désigne d'ordinaire, lorsqu'ils ont eu la chance de découvrir un gisement, se contentent-ils de s'en assurer la concession qu'ils rétrocèdent le plus vite possible aux banquiers et aux lanceurs d'affaires. Ceux qui préfèrent, au contraire, exploiter pour leur propre compte et avec leurs ressources personnelles, renoncent délibérément à toute exploitation minière. Ils recherchent, dans le voisinage des roches aurifères, des terrains d'alluvion formés aux dépens de ces roches par l'action séculaire des eaux. En délitant la roche, l'eau, glace, pluie ou torrent, a nécessairement emporté avec elle les parcelles d'or, qu'il est très facile d'isoler. Il suffit d'un simple plat pour recueillir les sables, et d'un peu d'eau pour les laver. C'est bien entendu avec cet outillage si rudimentaire qu'opéraient les Australiens. Les premiers résultats furent assez encourageants. En bordure du Golden Creek, sur une longueur de plusieurs kilomètres et une largeur de 200 ou 300 mètres, s'étendait une couche de boue de 8 pieds de profondeur. À raison de 9 à 10 plats par pied cube, la réserve était donc abondante, car il était bien rare qu'un plat n'assurât pas au moins quelques grains d'or. Les pépites, il est vrai, n'étaient qu'à l'état de poussière, et ces placers n'en étaient pas à produire les centaines de millions que ces pareils ont donnés dans d'autres régions. Tels quels, cependant, ils étaient assez riches pour tourner la tête à de pauvres gens qui, jusqu'alors, n'avaient réussi à assurer leur subsistance qu'au prix d'un travail opiniâtre. Il eût été de mauvaise administration de ne pas réglementer l'exploitation des placers. Le gisement était en somme une propriété collective, et il appartenait à la collectivité de l'aliéner au profit des individus. Quelles que fussent ses idées personnelles, le Kaudjer en avait fait table rase, et s'obligeant à considérer le problème sous le même angle que la généralité des humains, il avait cherché la solution la plus utile, selon l'opinion courante, au groupe social dont il était le chef. Au cours de l'hiver, il avait eu à ce sujet de nombreuses conférences avec Dick, qu'il associait de parti pris à toutes ses décisions. De leur échange de vues, la conclusion fut qu'il importait d'atteindre un triple but. Limiter autant qu'on le pourrait le nombre des hosteliens qui partiraient à la recherche de l'or, faire bénéficier l'ensemble de la colonie des richesses arrachées à la terre, et enfin restreindre, repousser même, si c'était possible, l'afflux des étrangers peu recommandables qui allaient accourir de tous les points du monde. La loi qui fut affichée à la fin de l'hiver satisfaisait à ces trois desiderata. Elle subordonnait d'abord le droit d'exploitation à la délivrance préalable d'une concession. Puis elle fixait l'étendue maximale de ces concessions et édictait, à la charge des preneurs, tant une indemnité d'acquisition que le versement au profit de la collectivité du quart de leur extraction métallique. Au terme de cette loi, les conditions étaient réservées exclusivement aux citoyens hosteliens, titre qui ne pourrait être acquis à l'avenir qu'après une année d'habitation effective et sur une décision conforme du gouverneur. La loi promulguée, il restait à l'appliquer. Dès le début, elle se heurta à de grandes difficultés. Indifférents aux dispositions qu'elle contenait en leur faveur, les colons ne furent sensibles qu'aux obligations qu'elle leur imposait. Quel besoin d'obtenir et de payer une concession alors qu'on n'avait qu'à la prendre? Creuser la terre, laver les bouts des rivières, n'est-ce pas le droit de tout homme? Pourquoi serait-on contraint, pour exercer librement ce droit naturel, de verser une fraction quelconque du produit de son travail à ceux qui n'y avaient aucunement participé? Ces idées, le Kaudjer les partageait au fond du cœur. Mais celui qui a assumé la mission redoutable de gouverner ses semblables doit savoir oublier ses préférences personnelles et sacrifier, quand il le faut, les principes dont il se croit le plus sûr aux nécessités de l'heure. Or, cela sautait aux yeux, il était de première importance qu'un encouragement fût donné aux colons les plus sages qui auraient l'énergie de résister à la contagion et de rester appliqués à leur travail habituel. Et le meilleur encouragement était qu'ils fussent assurés d'avoir leur part, réduite assurément, mais certaine, tout en demeurant chez eux. La loi n'étant pas obéie de bonne grâce, on dut employer la contrainte. Le Kaudjer ne disposait à Liberia que d'une cinquantaine d'hommes formant le corps de la police permanente. Mais 950 autres hosteliens figuraient sur une liste d'appels, dont les plus anciens étaient éliminés à tour de rôle, à mesure que des jeunes gens arrivés à l'âge d'homme venaient s'y ajouter. Ainsi, 1000 hommes pouvaient toujours être rapidement réunis. Une convocation générale fut lancée. 750 hosteliens seulement y répondirent. Les 200 réfractaires étaient partis eux aussi pour les mines et battaient la campagne aux environs du Golden Creek. Le Kaudjer divisa en deux groupes les forces dont il disposait. 500 hommes furent répartis le long des côtes, avec mission de s'opposer au départ clandestin de l'or. Il se mit à la tête des 300 autres, qu'il fractionna en 20 escouades sous les ordres de ceux dont il était le plus sûr, et se rendit avec eux dans la région des Placers. la petite armée répressive fut disposée en travers de la presqu'île, au pied des Sentry Boxes, et de là remonta vers le nord, en balayant tout devant elle. Les laveurs d'or rencontrés au passage étaient impitoyablement repoussés, à moins qu'ils ne consentissent à se mettre en règle. Cette méthode obtint d'abord quelques succès. Certains furent contraints de payer à denier comptant le droit d'exploitation, et les limites du claim choisi par eux furent soigneusement indiquées. D'autres, par contre, et c'était la majorité, ne possédant pas la somme exigée pour la délivrance d'une concession, durent renoncer à leur entreprise. Le nombre des mineurs décrut sensiblement pour cette raison. Mais bientôt, la situation s'aggrava. Ceux qui n'avaient pu obtenir une concession tournaient pendant la nuit les troupes commandées par le Caudjer et revenaient s'établir en arrière, sur le bord du Golden Creek, précisément à l'endroit d'où l'on venait de les chasser. En même temps, le mal se répandait comme une marée montante. Excité par les trouvailles des premiers prospecteurs, une deuxième série d'hosteliens entrait en scène. D'après les nouvelles qui parvenaient au Caudjer, l'île entière était attaquée par la contagion. Le mal n'était plus localisé au Golden Creek, et d'innombrables chercheurs d'or fouillaient les montagnes du centre et du nord. On s'était fait cette réflexion bien naturelle que les gisements aurifères ne devaient pas, selon toute vraisemblance, se rencontrer exclusivement dans cette plaine marécageuse située à la base des Sentry Boxes. La présence de l'or sur l'île Host étant démontrée, tout portait à croire qu'on en trouverait également le long des autres cours d'eau dépendant du même système orographique. On s'était donc mis en chasse de tous côtés, de la pointe de la presqu'île Hardy et de l'extrémité de la presqu'île Pasteur au Darwin Sound. Quelques prospections ayant abouti à de petits succès, la fièvre générale en fut augmentée et la fascination de l'or devint plus impérieuse encore. Ce fut une irrésistible folie qui, en quelques semaines, vida Liberia, les bourgades et les fermes de la plupart de leurs habitants. Hommes, femmes et enfants allaient travailler sur les placers. Quelques-uns s'enrichissaient en découvrant une de ces poches où les pépites se sont accumulées sous l'action des pluies torrentielles. Mais l'espoir n'abandonnait pas ceux qui, pendant de longs jours, au prix de mille fatigues, avaient travaillé en pure perte. Tous y couraient, de la capitale, des bourgades, des champs, des pêcheries, des usines et des comptoirs du littoral. Cet or, il semblait doué d'un pouvoir magnétique auquel la raison humaine n'avait pas la force de résister. Bientôt, il ne resta plus à Liberia qu'une centaine de colons, les derniers à demeurer fidèles à leur famille et à continuer leurs affaires, bien éprouvés cependant par un tel état de choses. Quelque pénible, quelque désolant que soit cet aveu, il faut bien reconnaître que, seuls de tous les habitants de l'île Host, les Indiens qui s'y étaient fixés résistèrent à l'entraînement général. Seuls, ils ne s'abandonnèrent pas à ces furieuses convoitises. Que ceci soit à l'honneur de ces humbles Fuégiens, si plusieurs pêcheries, plusieurs établissements agricoles ne furent pas entièrement délaissés, c'est que leur honnête nature les préserva de la contagion. D'ailleurs, ces pauvres gens n'avaient pas désappris d'écouter le bienfaiteur, et la pensée ne leur venait pas de payer en ingratitude les innombrables bienfaits qu'ils en avaient reçus. Les choses allèrent plus loin encore. Le moment arriva où les équipages des navires en rade commencèrent à suivre le funeste exemple qui leur était donné. Il y eut des désertions qui se multiplièrent de jour en jour. Sans crier gare, les marins abandonnaient leurs bâtiments et s'enfonçaient dans l'intérieur, grisés par l'affolant mirage de l'or. Les capitaines, effrayés par cet émiettement de leurs équipages, s'empressèrent les uns après les autres de quitter le Bourgneuf, sans même attendre la fin de leurs opérations de chargement ou de déchargement. Nul doute qu'ils firent connaître au dehors le danger qu'ils avaient couru. L'île Host allait être mise en quarantaine par toutes les marines de la terre. La contagion n'épargna même pas ceux dont le devoir était de la combattre. Ce corps, organisé par le Kaoudjer pour la surveillance des côtes, disparut aussitôt que formé. Des 500 hommes qui le composaient, il n'y en eut pas 20 à rejoindre le poste qui leur était assigné. Et en même temps, la troupe que le Kaoudjer commandait directement fondait comme un morceau de glace au soleil. Il n'était pas de nuit que plusieurs fuyards ne missent à profit. En quelques jours, elle fut réduite de 300 hommes à moins de 50. En dépit de son indomptable énergie, le Kaoudjer fut alors profondément découragé. À lui qui, poussé par une irrépressible passion du bien, s'était rattaché à l'humanité après une si longue rupture, voici qu'elle se dévoilait cyniquement et montrait à nu tous ses défauts, toutes ses hontes, tous ses vices. Ce qu'il avait bâti avec tant de peine croulait en un instant, et, parce que le hasard avait fait jaillir quelques parcelles d'or d'un éclat de roche, les ruines allaient s'accumuler sur cette malheureuse colonie. Lutter, il ne le pouvait même plus. Les plus fidèles le quittaient comme les autres. Ce n'est pas avec la poignée d'hommes dont il disposait encore, et qu'il abandonnerait peut-être demain, qu'il ramènerait à la raison une multitude égarée. Le Kaoudjer revint à Liberia. Il n'y avait rien à faire. Comme un torrent dévastateur, le fléau s'était répandu à travers l'île et il la ravageait tout entière. Il fallait attendre qu'il eût épuisé sa violence. On put croire un instant que ce moment était arrivé. Vers la mi-décembre, 15 jours après le retour du Kaoudjer au gouvernement, quelques rares Libériens commencèrent à regagner la capitale. Les jours suivants, le mouvement s'accentua. Pour un colon qui se mettait tardivement en campagne, deux rentraient et reprenaient, l'oreille basse, leurs occupations antérieures. Deux causes motivaient ces revirements. En premier lieu, le métier de prospecteur était moins facile à exercer qu'on l'avait supposé. Briser la roche à coups de pic ou laver des sables du matin au soir sont des besognes pénibles que l'espoir d'un gain rapide permet seul de supporter. Or, il n'avait pas suffi de se baisser pour ramasser les pépites, ainsi qu'on se l'était imaginé. Pour quelques-uns que leur heureuse étoile avait conduit sur une poche, on en comptait des centaines auxquels le métier de prospecteur, bien qu'infiniment plus dur que leur travail habituel, avait rapporté beaucoup moins. Sur la foi des racontars, on avait attribué au gisement une richesse incalculable. Il fallait en rabattre. Qu'il y eût de l'or sur l'île Host, cela n'était pas contestable, mais on ne l'y ramassait pas à l'appel, comme on l'avait cru naïvement de prime abord. De là, pour certains colons, un découragement d'autant plus rapide que les illusions avaient été plus grandes. D'autre part, le ralentissement des transactions commerciales et l'arrêt presque total des exploitations agricoles commençaient à produire leurs effets. Certes, on ne manquait encore de rien, mais le prix de tous les objets de première nécessité avait énormément augmenté. Seuls pouvaient s'en rire ceux à qui la chasse alors avait été profitable. Ce renchérissement concourait, au contraire, à augmenter la misère des autres, pour qui la trouvaille de quelques pépites de valeur n'avait pas compensé la suppression des salaires habituels. De là ces reculades, dont le nombre fut d'ailleurs restreint. Elles se limitèrent aux plus faibles et aux plus pauvres, et en quelques jours, le mouvement s'arrêta. Le Kaoudjer n'en éprouva pas de déception, parce qu'il ne s'était jamais illusionné sur son ampleur. Loin de considérer la crise comme près de s'apaiser, son regard clairvoyant découvrait de nouveaux dangers dans les ténèbres de l'avenir. Non, la crise n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer, au contraire. Jusqu'ici, on n'avait eu à compter qu'avec les Hosteliens, mais il n'en serait pas toujours ainsi. De toutes les contrées du monde, la redoutable race des chercheurs d'or s'abattrait inévitablement sur la malheureuse île, dès que ceux-ci connaîtraient l'existence du nouveau champ offert à leur insatiable rapacité. Ce fut le 17 janvier qu'en arriva au Bourg-Neuf le premier convoi. Ils débarquèrent d'un steamer au nombre de 200 environ, 200 hommes plus ou moins déguenillés, d'aspect solide, l'air résolu, brutal et farouche. Quelques-uns avaient de larges couteaux passés à la ceinture, mais de tous, sans exception, le pantalon, si minable qu'il fût, comportait une poche spéciale que gonflait la crosse d'un revolver. Ils portaient sur l'épaule un pic et un sac où étaient incluses leurs misérables nippes, et sur leur hanche gauche, une gourde, un plat et une écuelle s'entrechoquaient avec un bruit de ferraille. Le Kaoudjer les regarda tristement débarquer. Ces 200 aventuriers, c'était le premier tour de la chaîne dans laquelle l'île Host allait être garrottée. À partir de ce jour, les arrivées se succédèrent à intervalles rapprochés. Aussitôt débarqués, les chercheurs d'or, en gens qui ont l'habitude des formalités à remplir, se rendaient directement au gouvernement et s'enquéraient des prescriptions légales en vigueur. Ils s'accordaient unanimement à les trouver exorbitantes. Remettant alors à régulariser leur situation, ils se répandaient par la ville. Le petit nombre de ses habitants et les informations qu'ils recueillaient habilement avaient au fait de les convaincre de la faiblesse de l'administration hostelienne. C'est pourquoi ils se décidaient tous à passer outre à des lois que bravaient impunément les hosteliens eux-mêmes. Et, après avoir erré un jour ou deux dans les rues désertes de Libéria, ils quittaient la ville et s'éloignaient sans autre formalité à la recherche d'un claim. Mais l'hiver vint, et au même instant que les travaux miniers étaient arrêtés, le flot des arrivants fut tari. Le 24 mars, le dernier navire s'éloignait du Bourgneuf, où il avait débarqué son contingent de prospecteurs. Plus de 2000 aventuriers foulait à ce moment le sol de l'île. Ce navire emportait, à de nombreux exemplaires, un décret notifié par le gouvernement de l'île Host à tous les états du globe. Le Kaoudjer, qui avait assisté à l'invasion avec une douleur grandissante, faisait savoir, urbi et orbi, que l'île Host ayant une population surabondante, il serait mis obstacle, fût-ce par la force, au débarquement de tout nouvel étranger. Cette mesure serait-elle efficace? L'avenir le dirait, mais en son fort intérieur, le Kaoudjer en doutait. Trop puissante est l'attirance de l'or sur certaines natures pour que rien n'ait le pouvoir de les arrêter. D'ailleurs, le mal était déjà fait. La révolte des hosteliens qui rejetaient toute discipline, l'inévitable misère à laquelle ils étaient condamnés, l'invasion de cette tourbe d'aventuriers, de ces gens de sacs et de cordes apportant avec eux tous les vices de la terre. C'était un désastre. À cela, que pouvait-on? Rien. On ne pouvait que temporiser et attendre des jours meilleurs s'ils devaient jamais naître. Halg, Caroli, Hartlepool, Harry et Edward Rhodes, Dick, Germain Rivière et une trentaine d'autres étaient seuls contre tous. C'étaient les derniers fidèles, le bataillon sacré groupé autour du Kaoudjer, qui assistait, impuissant, à la destruction de son œuvre.